Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un printemps arabe, l'Égyptien. Début 2011, dans la foulée des Tunisiens, le peuple d'Égypte entame sa révolution. Des millions de personnes descendent dans la rue pour réclamer le départ d'Hosni Moubarak. Il ne leur faudra que 18 jours pour mettre un terme aux 30 années de règne de celui qu'on surnomme le Pharaon. Tout démarre le 25 janvier 2011 avec une manifestation place Tahrir, la place de la libération. Une immense esplanade au cœur du Caire, deuxième ville d'Afrique. En quelques jours, la capitale de l'Égypte devient le théâtre de gigantesques manifestations. Les autres villes du pays vont suivre son exemple. Le 11 février 2011, le peuple égyptien accueille le départ d'Hosni Moubarak avec joie et soulagement. Mais le conflit a été d'une violence inouïe. Plus de 850 manifestants sont morts. C'est cette révolution que nous allons vous faire revivre aujourd'hui, où l'on croisera des cyberactivistes, un prix Nobel de la paix, des frères musulmans, des manifestants révoltés et un dictateur complètement dépassé. Notre invité aujourd'hui, Claude Guibal, grand reporter pour le service international de Radio France, ancienne correspondante en Égypte de 1997 à 2012 et auteur de l'ouvrage intitulé « L'Égypte de Tahrir, anatomie d'une révolution ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Sonia Leglen.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام.
Notre message tient en un mot. Président Moubarak, partez. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne supportons plus votre système de gouvernement. Aujourd'hui, nous avons débuté le changement initié par la Tunisie.
Oui, la Tunisie, un modèle pour le peuple égyptien, comme l'explique ce manifestant devant les caméras de France 2. Ce 25 janvier 2011, dans la foule, on peut voir écrit en français sur une pancarte « Moubarak dégage ». Une référence au « Ben Ali dégage » scandé pendant des semaines par les manifestants tunisiens. Ce mardi-là, c'est jour férié en Égypte. On célèbre la police. Oui, une fête pour la police. C'est une idée d'Hosni Moubarak. Institué en 2009, ce jour de la police, donc, rend hommage au premier employeur du pays, le ministère de l'Intérieur. Avec 1,5 million de fonctionnaires pour 80 millions d'habitants, on peut parler effectivement d'état policier. Un pays où l'uniforme fait régner la terreur. Le ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, est d'ailleurs surnommé le ministre de la torture. D'ailleurs, la veille, il a prévenu les manifestants, tout débordement sera durement réprimé. C'est que ce ministre-là est au courant de ce qui se prépare. Un collectif de jeunes, le mouvement du 6 avril, a lancé un appel à manifester sur Facebook. Début 2011, ce réseau social rassemble déjà 16% de la population, soit 5,5 millions d'internautes. Pour ces jeunes activistes, ce jour de la police doit devenir le jour de la colère du peuple égyptien. L'appel à manifester a été relayé par le mouvement contestataire Kefaya, autrement dit « ça suffit », qui demande le départ de Moubarak depuis 2004. Mais également par les jeunes de la confrérie des frères musulmans, une organisation religieuse très implantée en Égypte et qui compterait plus d'un million de membres. Le 25 janvier, peu après midi, des petits groupes se rassemblent discrètement dans plusieurs rues du Caire. Ils convergent tous rapidement vers la place Tahrir, grande comme deux fois celle de la place de la République à Paris. Et très vite, ils sont près de 20 000. Pour une ville qui compte 20 millions d'habitants, cela peut paraître dérisoire. Pourtant, de mémoire de Kairot, on n'avait pas vu un tel rassemblement depuis 2003 contre la guerre en Irak. Encerclés par la police anti-émeute, les manifestants se mettent à crier des slogans tels que « Moubarak, l'Arabie n'est pas loin », en référence à Ben Ali, qui a trouvé refuge à Jeddah. En réponse, les policiers lancent des gaz lacrymogènes. Parmi la foule, un homme répond au journaliste de France 3 et il explique pourquoi il manifeste.
J'ai 33 ans et je n'ai pas de travail. Les prix augmentent, on n'a pas de logement et il n'y a pas de justice. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous mettre le feu?
Se mettre le feu. Le manifestant fait ici référence à plusieurs Égyptiens désespérés qui se sont immolés au début de l'année 2011, imitant en cela le Tunisien Mohamed Bouazizi. Un autre manifestant ajoute « Nous sommes diplômés et sans emploi. Nous sommes jeunes et sans avenir. Pas de liberté politique, pas de liberté économique. Alors, on fait quoi? On se met le feu ?» Mais ce jour-là, en Égypte, ce ne sont pas les hommes qui s'immolent, ce sont les villes qui s'embrasent. À Suez, Alexandrie, Assouan et au Caire, le peuple vient braver la police. Cette première journée est l'étincelle qui va faire basculer le pays dans la révolution. Les langues se délient et la colère prend le pas sur la peur. L'Égypte entre en ébullition. Dans le documentaire « Égypte, carnet intime d'une révolution » diffusé sur France Culture, une jeune manifestante a du mal à contenir sa fureur.
Trop, c'est trop. 30 ans d'injustice. 30 ans de ce régime complètement stupide qui met tous les incompétents à la tête du pouvoir. J'en ai marre, j'ai 28 ans. Je n'ai connu que Moubarak comme président. Ce n'est pas mon président, il ne me représente pas. Je ne l'ai pas élu. C'est ce que j'ai à dire à ce régime stupide qui pousse les gens à tuer des activistes et des civils qui ne commettent aucune violence. Et après, ils disent dans les médias que nous sommes violents. Nous ne sommes pas violents, nous protégeons notre pays. Nous protégeons l'intérêt commun. Mais lui ne le fait pas. Il ne devrait pas être dans ce bureau. Il ne devrait pas être président.
Il ne devrait pas être notre président, le message est clair. Car la jeunesse réclame du changement. Avec ses 80 millions d'habitants, l'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe et du Moyen-Orient. Une population très jeune, les deux tiers des habitants, ont moins de 30 ans. Ils sont donc plus de 50 millions à n'avoir connu que Moubarak comme président. Arrivé au pouvoir après l'assassinat d'Anwar al-Sadat en 1981, Moubarak a été réélu 5 fois à la tête du pays, lors de simulacres de scrutin. Grâce à son parti, le PND, Parti National Démocratique, il a noyauté toutes les instances du pouvoir. Un régime autoritaire aux contours classiques. Sous sa présidence, la population a doublé, mais le pays n'a jamais été réformé. On qualifie parfois son règne de « dictature molle ». Car Moubarak, c'est avant tout l'immobilisme. 30 ans d'immobilisme, mais 30 ans de paix aussi. Raïs tiendra en effet, et coûte que coûte, les accords de paix avec Israël et restera l'allié indéfectible des États-Unis, qui le lui rend bien d'ailleurs avec une aide annuelle de 1,5 milliard de dollars. Lorsque les premières manifestations éclatent en ce mois de janvier 2011, Moubarak, âgé de 82 ans, est déprimé, profondément affecté par la mort de son petit-fils. Entouré d'une cour qui le flatte, il est très loin des préoccupations de son peuple. D'ailleurs, il prépare sa succession. Et c'est son fils, Gamal, qui est pressenti. Pourquoi gêner? Mais les événements qui se déroulent dans tout le pays vont bouleverser les plans du clan Moubarak. Au début, il est vrai, tout le monde est sceptique. L'Égypte n'est pas la Tunisie. La population est beaucoup moins éduquée et les Égyptiens n'ont pas une conscience politique très développée. Et puis, il y a cet état d'urgence permanent qui dure depuis 30 ans, depuis l'assassinat de Sadat. Hosni Moubarak n'a jamais voulu le lever à cause de sa lutte sans merci contre les islamistes. Pourtant, les Égyptiens continuent le combat, malgré la répression et les premiers morts de cette révolution en marche. Le journaliste Alain Grech analyse la situation sur France Inter.
Il y a eu en Égypte depuis quelques années des mouvements sociaux importants, des grèves ouvrières, des luttes paysannes, des luttes dans les quartiers défavorisés, mais c'était ponctuel et il n'y avait jamais de slogan politique. C'était des slogans revendicatifs. Là, il y a très clairement une demande que le régime s'en aille, quoi. Et ça, c'est effectivement sans précédent et c'est incontestablement le résultat de l'exemple tunisien. Les gens n'ont plus peur. Et malgré les mesures exceptionnelles prises par le pouvoir, les gens sont descendus dans la rue. Avant, les manifestations étaient beaucoup moins importantes et il y avait une très violente répression. Les gens étaient arrêtés, puis on sait que quand ils sont amenés dans les commissariats, en général, ils sont battus, torturés, etc. Donc ça crée une vraie peur. Là, on a l'impression que les gens se sont libérés, quoi.
La torture et les violences policières, c'est le lot quotidien pour de nombreux Égyptiens depuis des années. Une affaire, d'ailleurs, avait bouleversé l'opinion publique 6 mois avant le début des manifestations. C'était le 6 juin 2010. Ce jour-là, un homme de 28 ans s'apprête à mettre en ligne sur son blog une vidéo montrant des policiers en plein deal de drogue. Le soir même, il est appréhendé. La suite est dramatique. Traîné hors du cybercafé, le jeune homme est battu à mort dans un hall d'immeuble. Son nom, Khaled Saïd. Très vite, la photo de son visage aux dents brisées, au nez écrasé, partagé, échangé des milliers de fois sur Internet. Et un homme crée une page Facebook. Nous sommes tous Khaled Saïd. Cette communication devient une plateforme où les Égyptiens partagent leurs témoignages de violence et tortures policières. À la fin de l'année 2010, plus de 300 000 personnes alimentent cette page. Lorsque la révolution tunisienne obtient la tête de Ben Ali, l'administrateur de cette page lance un appel à manifester. Ce sera le 25 janvier, le fameux jour de la colère, à l'occasion de la fête de la police. L'homme qui est à l'origine de cette page Facebook s'appelle Vael Ghonim. Cet Égyptien de 30 ans vit à Dubaï, où il travaille comme directeur marketing de Google Moyen-Orient. Le 23 janvier, il rentre en Égypte pour participer à la manifestation du 25. 2 jours plus tard, il est arrêté par la sécurité d'État. On lui bande les yeux, il va passer de nombreux jours en captivité. Pour les services de sécurité égyptiens, il faut briser le début de la contestation rapidement, autrement dit, tuer le mouvement dans l'œuf. Alors, les autorités coupent l'accès à Internet. Un manifestant explique la situation au micro de France Inter.
La plupart des gens ont su ce qui se préparait et où grâce à Facebook et aux réseaux sociaux, car les médias locaux sont biaisés, sont aux mains du gouvernement, donc personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ils ont fermé Twitter et Facebook, mais il reste les messages BlackBerry, ils ne les ont pas bloqués et en plus, ils sont intraçables.
L'histoire de cette révolution, c'est aussi l'affaire de débrouille et d'esquive. L'État bloque Facebook et Twitter, qu'à cela ne tienne. Les manifestants détournent cette censure en utilisant des sites miroirs et des passerelles Internet. Et à ce jeu-là, les jeunes cyberactivistes égyptiens enregistrent quelques victoires. Ils lancent un événement sur Facebook pour le vendredi 28 janvier. C'est le premier jour du week-end et celui de la grande prière hebdomadaire pour les musulmans. Heure du rassemblement, midi. Nom de l'événement, pot de départ d'Hosni Moubarak. À midi, des milliers de muezzins appellent à la prière dans la gigantesque ville du Caire. Après la fin de cette grande prière, place à la colère. Des milliers de caïrodes convergent vers le centre-ville pour réclamer la démission de Moubarak. Une manifestante répond aux questions des journalistes de France 3.
On a le droit de manifester pacifiquement. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On dit à Moubarak, c'est fini. C'est fini.
Alors que les Égyptiens marchent dans le calme, ils sont bloqués par la police. Et très vite, c'est l'affrontement. Jet de pierre côté manifestants, balles en caoutchouc côté force de l'ordre. Les rues sont envahies de gaz lacrymogène, la foule est déchaînée. Des barricades sont dressées, des véhicules de police sont incendiés. Et puis tout à coup, la foule se fige. C'est le moment de la prière. Scène surréaliste où une centaine d'hommes se mettent à prier. Ce sont principalement les frères musulmans. Ils ont rejoint le mouvement de contestation, c'est un renfort de poids. Très organisés, ils vont tenir un rôle fondamental dans la révolution égyptienne. Autre soutien important, les supporters ultra des deux plus grands clubs de foot de la capitale, Al-Ahli et Zamalek. Jeunes et téméraires, les ultras sont habitués depuis des années à affronter la police. Ils sont d'ailleurs pratiquement les seuls Égyptiens expérimentés dans la guérilla urbaine. Eux n'ont peur ni des gaz, ni des balles. Ils renvoient des grenades et savent s'organiser. Ils sont aussi les premiers à lancer des chants hostiles à Moubarak que la foule reprend ensuite en cœur.
Ja, Nouri, Sa, Ben, Nizam.
foule qui se retrouve place Tahrir, on retrouve ainsi un mélange assez inédit et disparate de jeunes cyberactivistes des classes supérieures, des militants historiques de l'opposition, les jeunes de la confrérie des frères musulmans et donc les supporters de foot ultra qui se présentent comme anarchistes. Ajoutons à cela un homme, l'Égyptien Mohamed El Baradei. Ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a reçu le prix Nobel de la paix en 2005 pour ses efforts dans la lutte contre l'armement atomique. Ce vendredi 28 janvier, il décide d'aller soutenir les manifestants. Mais face à la violence des affrontements, il est exfiltré. Au micro de France Culture, une manifestante décrit la fin de cette journée où l'Égypte a basculé dans le chaos.
Les balles réelles. Ils nous ont tiré dessus à balles réelles. Les jeunes tombaient les uns après les autres. Et Hosni Moubarak, hier, il a donné l'ordre aux policiers de s'habiller en civil et d'aller mettre le feu et détruire tout ce qu'ils pouvaient. C'est la police qui met le feu au pays. Et ensuite, ils disent que c'est nous qui faisons ça. On est des voyous. On n'est pas des voyous, on est des gens respectables. C'est eux qui nous tuent, qui tuent les jeunes Égyptiens. Ils veulent nous sacrifier pour protéger le ministère de l'Intérieur. Mais c'est trop tard maintenant. Ils nous tirent dessus, ils nous tuent, mais on n'a pas peur. On veut vivre avec fierté et dignité, ou alors mourir avec fierté et dignité.
Mourir avec fierté et dignité. Ce jour-là, des dizaines de manifestants ont perdu la vie lors des manifestations qui se sont déroulées dans tout le pays. L'Égypte est à feu et à sang. Au Caire, le quartier général du Parti national démocratique du président Moubarak est incendié. Puis la police déserte les rues et les tanks entrent dans la ville. C'est l'entrée en scène de l'armée, institution à la fois admirée et crainte. Car tout le monde a un fils, un frère, un oncle, un père ou un cousin parmi les 470 000 hommes que compte l'armée égyptienne. Contrairement à la police, où il faut souvent payer pour obtenir un poste, l'armée est l'un des seuls moyens d'ascension sociale dans ce pays rongé par la corruption et le népotisme. Ce soir-là, les soldats n'interviennent pas. Mais la plupart des Égyptiens sont chez eux à cause de l'instauration d'un couvre-feu. Et c'est là qu'à minuit, ils découvrent sur leur écran de télé leur président, le visage livide.
J'ai entendu votre revendication de liberté, mais c'est une nécessité absolue de maintenir la sécurité et la stabilité du pays. Je suis le garant de cette sécurité.
Traduisez, je ne partirai pas. Le lendemain, ils sont des milliers à se rassembler place Tahrir. Les Égyptiens ordinaires ont rejoint les manifestants de la première heure. Et l'armée, toujours immobile, les canons des chars sont tournés vers les murs, les soldats observent ce peuple qui vient leur offrir des pâtisseries et des cigarettes. Des manifestants ont tagué sur un char « Moubarak, go away ». Dans l'après-midi, la télévision nationale interrompt ses programmes. Et pour la première fois depuis son ascension au pouvoir, Hosni Moubarak nomme un vice-président, donc un potentiel successeur. Il s'agit d'Omar Souleyman, le directeur des services de renseignement. Le Raïs décide aussi de changer son gouvernement. Bien. Mais cela suffira-t-il à calmer la colère du peuple ?
ازاي انا رافع راسي وانت بتحلف واقفة في صفي وانا عشت حياتي بحلمها عشان ما المحش في عيني بخوف وفي بحرك ولا ببرك ازاي احميلك ظهرك وانا ظهري في اخر الليل دايما بيدك محمي وما تشوف انا اقدم شارع فيكي وامالك من اللي بليكي انا طفل اتعلق بيكي في نص السكة وكويت فيك انا لو عشقك متخير كان قلبي زمانه اتغير وحياتك لفضل اغير فيكي لحد ما ترضى عليك ازاي ترضي لحبيبتي اتمعشق اسمك وانتي عمالة وما انتش حاسة بطبت ازاي مش لاقي في عشقك دافع ولا صدق في حبك شافع ازاي انا رافع راسك وانت بتحلف راسي ازاي لحد ما ترضى عليه وحياتك لفضل اغير فيك لحد ما ترضى عليه وحياتك لفضل اغير فيك لحد ما ترضى عليه
مبروك لكل مصري مبروك لكل مصري المصريين هم
Le Caire, dimanche 30 janvier à l'aube, le ministère de l'Intérieur vient de tomber aux mains des manifestants. Dans la ville, les commissariats sont désertés, le Caire est le théâtre de scènes de pillage. Des milliers de détenus ont été relâchés des prisons pour semer le chaos. Le régime a choisi la stratégie du pire en laissant dégénérer la situation. Des comités de défense se mettent en place pour protéger les caïrotes. Place arrière, la foule est toujours aussi dense. Et ce n'est pas le survol de la place par des hélicoptères et des chasseurs F-16 qui vont impressionner les manifestants. Oh non, des enfants sont même de la partie. Oui, comme celui-ci, qui scande un slogan anti-Moubarak repris par la foule. À 19h, le prix Nobel de la paix, Mohamed El-Baradei, prend la parole place Tahrir et déclare « Une nouvelle ère s'ouvre pour l'Égypte. Ce que nous avons initié ne peut plus faire marche arrière. » Et le lendemain, les manifestants apprennent deux bonnes nouvelles. Le ministre de l'Intérieur, le détesté Habib El-Adli, est écarté du nouveau gouvernement. Et l'armée publie un communiqué « Elle n'utilisera pas la force contre la foule. » Elle reconnaît les demandes légitimes du peuple. Le 1er février, après 5 jours de blackout, le régime rétablit l'accès à Internet. Une semaine après la première manifestation place Tahrir, ils ne sont plus 15 000 à manifester. La chaîne qatarie Al Jazeera, il est vrai acquise, à la cause des manifestants, annonce le chiffre de 2 millions. La télévision nationale égyptienne parle, elle, de 5000 manifestants. Mais enfin, peu importe les chiffres exacts, c'est tout un peuple qui vient réclamer la tête de Moubarak. Le soir même, le président prend une nouvelle fois la parole à la télé. Et là, il annonce qu'il ne se représentera pas à la prochaine présidentielle prévue 5 mois plus tard. Non, il compte garder le pouvoir tout de même et assurer la transition dans le calme. Il rappelle aussi tout ce qu'il a donné au pays.
Le Hosni Moubarak qui vous parle aujourd'hui est fier des longues années passées au service de l'Égypte et de son peuple. Car ce pays, le cher pays, est mon pays comme il est le pays de chaque Égyptien et Égyptienne. Sur son sol, j'ai vécu et j'ai combattu pour lui. J'ai protégé ses terres, sa souveraineté et ses intérêts. C'est sur son sol que je vais mourir. Et l'histoire me jugera comme elle en jugera d'autres.
Hosni Moubarak, qui s'est fait connaître pendant la guerre de 73 contre Israël, a tenté de jouer sur la corde de la sensibilité et du patriotisme. Alors oui, il va quitter le pouvoir, mais il veut finir sa vie en Égypte. Ce discours ne convainc pas les manifestants qui exigent son départ immédiat. L'un d'entre eux réagit au micro de France Inter.
C'est un discours surréaliste, le président est à côté de la plaque, il n'arrive pas à comprendre que le peuple n'en veut plus de lui. Et maintenant c'est une question d'obstination. Lui il est obstiné et le peuple est obstiné aussi. Il est brisé psychologiquement, je ne l'ai jamais vu aussi faible. Il faut regarder son visage et ses expressions il y a 10 jours et son regard et ses expressions depuis la nomination d'Omar Suleiman comme vice-président. Il a enfin compris.
L'obstination, c'est bien le mot qui convient pour qualifier la journée du 2 février. Car ce jour-là, de nombreux acteurs font leur entrée sur la scène révolutionnaire. Ils se présentent comme des partisans de Moubarak. En réalité, ce sont des Baltaguillas, des petits caïds des quartiers pauvres, payés pour briser la révolution. Et ils s'en prennent violemment aux manifestants. Un peu plus tard dans la journée, des hommes à dos de cheval et de chameau foncent dans la foule. Scène terrible, des snipers nichés sur les toits d'immeubles tirent dans la tête et dans la poitrine des manifestants. C'est le chaos. Des cocktails Molotov sont jetés de part et d'autre. Au micro de France Culture, un père de famille raconte le rôle qu'a tenu sa propre fille dans la révolution.
J'ai aussi découvert ma fille. Le 2 février, quand la place Tahrir a été attaquée, ma fille a fabriqué 20 bouteilles de cocktails Molotov. 20! Mon fils, lui, n'arrêtait pas de me dire que j'étais incohérent parce que je construisais des ponts, des tunnels. Donc je travaillais pour le régime, puisque seul un État construit des ponts et des tunnels. Mais avec la révolution, il a retrouvé du respect pour moi. Et c'est important pour moi. Et de mon côté, j'ai retrouvé du respect pour ma fille, qui me paraissait timide, mais en fait était capable de fabriquer des cocktails Molotov pour la révolution.
Ce 2 février, la révolution aurait pu être stoppée par le régime dans un bain de sang. Mais la place Tahrir est toujours occupée. Les manifestants ont tenu, en grande partie, grâce à la combativité et l'organisation des frères musulmans. Le lendemain, c'est le Premier ministre qui présente ses excuses pour les violences de la veille qui ont fait 9 morts et près de 1000 blessés rien que sur la place Tahrir. Et puis, pendant 5 jours, c'est le statu quo. L'économie tourne au ralenti, les touristes ont quitté le pays, et du côté du gouvernement, on a lancé des tractations avec l'opposition, et notamment avec les frères musulmans qui deviennent ainsi une force politique reconnue. Le 7 février, les larmes d'un homme bouleversent tout le pays. Celle de Vael Ghonim, le jeune Égyptien à l'origine de la page Facebook qui avait appelé à la première manifestation. Détenu pendant 10 jours, il n'a pas eu connaissance des tout derniers événements de la révolution. Le soir de sa libération, il s'exprime sur le plateau d'un talk show très populaire de la chaîne de télé privée Dream. À l'écran, des images des manifestants tués sous les balles ou les coups de la police défilent. Et là, Vael Ghonim craque en direct.
Je veux dire à chaque mère et à chaque père qui a perdu un fils que je suis désolé, mais ce n'est pas notre faute. J'ai juré devant Dieu que ce n'est pas notre faute. C'est la faute de tous ceux qui se sont accrochés au pouvoir. Je veux m'en aller.
Eh ben, El Ghonim s'en va. Il quitte le plateau en pleurs. Le lendemain, de nombreux Égyptiens qui n'avaient jamais manifesté se rendent place Tahrir. Et l'un d'eux confie « J'ai vu ce gamin, Vael Ghonim, pleurer à la télé hier soir et je me suis dit que j'étais à l'âge. » Ce jour-là, sous un grand soleil, la foule fraternise. Des jeunes s'organisent pour nettoyer la place, d'autres distribuent des biscuits. Alors, on discute, on échange, jeunes et vieux, chrétiens et musulmans, femmes voilées, non voilées, tout le monde se parle. Jeudi 10 février, c'est l'excitation place Tahrir. Un commandant militaire est venu annoncer une grande nouvelle aux manifestants. « Toutes vos exigences seront satisfaites aujourd'hui », dit-il. Tout le monde s'est dit alors « Moubarak va partir ». Aux États-Unis, le patron de la CIA, Léon Panetta, évoque la probabilité d'une démission du Raïs. Bref, les bons signaux se multiplient. Alors, lorsque Moubarak apparaît sur l'écran géant dans la soirée, tous les manifestants de la place Tahrir retiennent leur souffle. Moubarak commence son discours et annonce d'emblée qu'il transfère ses pouvoirs à son vice-président Omar Suleiman. Mais il va doucher les espoirs de millions d'Égyptiens en annonçant ensuite qu'il reste tout de même à son poste. Le président égyptien poursuit son discours en jouant une fois de plus sur la fibre patriotique.
Je redis de nouveau que j'ai vécu pour ce pays, garant de sa sécurité. L'Égypte demeurera jusqu'à ce que je transfère son étendard. L'Égypte restera une patrie chère qui ne peut me quitter jusqu'à ce que je sois enterré dans ce pays. Et le peuple égyptien sera un peuple digne. Que Dieu préserve l'Égypte, qu'il préserve sa sécurité et qu'il guide ses pas. Au revoir.
Ce vendredi 11 février devait être une grande fête, mais Hosni Moubarak a décidé de s'accrocher au pouvoir. Fataliste, de nombreux Égyptiens s'en remettent à Dieu. Un opposant déclare, résumant bien le sentiment général, « Ici, il n'y a plus de chrétiens ou de musulmans, plus de différence. Nous sommes tous Égyptiens, nous sommes tous les victimes du régime, nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. » Moralité, Hosni Moubarak aura réussi à unir son peuple dans une détestation quasi unanime de sa personne. Qui veut encore de lui en Égypte ? Au sein même du palais présidentiel, une dispute éclate entre Moubarak, sa femme et ses deux fils. Le journal Al-Akhbar rapporte la scène dans ses colonnes. L'un des fils Moubarak reproche à l'autre « Tu as corrompu le pays quand tu as ouvert la porte à tes copains businessmen. Et voilà le résultat. Alors que notre père aurait dû être honoré à la fin de sa vie, tu as souillé son image. » Et le raïs ajoute à l'adresse de son fils « Ta mère et toi êtes responsables de tout ça. Vous avez détruit mon image dans l'histoire. » C'est d'ailleurs sur les conseils de son fils que Moubarak aurait décidé d'annoncer la veille qu'il restait au pouvoir. Toujours est-il que ce vendredi 11 février, un bruit court place Tahrir. Le clan Moubarak aurait pris la fuite pour se réfugier dans une villa à Sharm el-Sheikh. À 18h, le vice-président Omar Suleiman fait une annonce à la télé.
Au nom de Dieu, le charitable, le compatissant, mes chers concitoyens, dans les circonstances exceptionnelles que connaît le pays, le président Hosni Moubarak a décidé de démissionner et de remettre la gestion des affaires du pays au Conseil suprême des forces armées.
Voilà 30 secondes pour mettre fin à 30 ans de règne. Moubarak est tombé, Tahrir peut exulter, toute l'Égypte peut célébrer la nouvelle. Après 18 jours de révolution, le peuple a gagné. Le tribut est lourd, plus de 850 morts et des milliers de blessés. Mais pour les Égyptiens, ces deux semaines de révolution resteront dans leur mémoire comme un message d'espoir. Le peuple peut décider de son destin, enfin. Pour l'heure, c'est le moment de fêter ce moment historique. Une manifestante partage sa joie au micro de France Culture.
Cette extase-là, c'est un truc que j'espère que ça ne va pas partir. J'espère que même si on souffre terriblement dans l'avenir à cause de la difficulté de passer à une vie vraiment démocratique, qu'à l'intérieur, on ne va pas perdre cette joie, qu'on ne va pas devenir cynique. On ne va pas se dire c'était beau, mais c'était le début d'un cauchemar. Ça va être un cauchemar, je crois, pour un moment, mais c'est très beau. C'est très beau.
La révolution égyptienne aura été soudaine, brutale, violente. Alors que le régime d'Hosni Moubarak avait tout verrouillé depuis 1981, tout s'est effondré en 18 jours. On a parfois parlé de révolution 2.0, mettant en avant les cyberactivistes qui ont été à l'initiative, il est vrai, de la première manifestation. Non, Raïs, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution dont il ne faut pas oublier deux acteurs qui ont joué un rôle fondamental. D'abord, la confrérie des frères musulmans qui a sauté sur l'occasion pour se faire une place dans le jeu politique. Et puis l'armée, qui par son aura symbolique et son pouvoir économique notamment, a beaucoup pesé. Ces 18 jours n'ont été que le début d'un processus politique qui a vu l'arrivée au pouvoir, en juin 2012, de Mohamed Morsi, candidat des frères musulmans. Renversé par un coup d'État un an plus tard, c'est désormais le général Sisi qui dirige le pays. Après Nasser, Salah Moubarak, c'est encore un militaire qui est à la tête du pays et de la vie d'anciens de la révolution égyptienne. Le général a instauré un climat d'oppression encore pire que sous Moubarak.
كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا باليها معنا ما فيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع
يا الميدان كنت فين من زمان فديت السور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا من جديد
حسينا وابتدينا بعد ما بعدنا وانتهينا لازم بايدينا نغير نفسينا اديتنا كتير والباقي علينا
ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة ونرجع
فين من زمان ميدان مليان
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le printemps arabe en Égypte, notre invité Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter pour le service international de Radio France, c'est l'ancienne correspondante en Égypte pour Radio France de 1997 à 2012 et auteur de l'ouvrage intitulé « L'Égypte de Tahrir, anatomie d'une révolution ». Le morceau de musique qu'on a entendu, qu'on vient d'entendre, magnifique d'ailleurs, qui donne des frissons, c'est Kairouki et Aïda El Ayoubi, et ces deux femmes chantent où est passée la place Tahrir. Hein, oui. C'est un chant révolutionnaire et qui a du sens au regard de ce qu'est le régime aujourd'hui en Égypte. Peut-on dire, comme je l'ai dit à la fin du récit, que le régime actuel du maréchal Sisi est pire finalement que celui de Moubarak?
Oui, je crois que la répression n'a jamais été aussi forte. On parlait tout à l'heure de dictature molle pour l'Égypte de Moubarak. On est passé dans une dimension supérieure aujourd'hui. Les chiffres sont terribles quand on parle du nombre de prisonniers politiques, plus de 60 000 prisonniers politiques, des centaines de disparitions forcées, une répression envers les médias notamment absolument ahurissante. L'Égypte de Moubarak était une Égypte extrêmement dure. Mais il est certain que l'Égypte de Sisi, elle, l'est encore plus parce qu'il y a l'intention affichée clairement par le président Sisi au moment de sa réélection de ne jamais voir se repasser ce qui s'est passé en 2011.
Le mouvement de balancier réactionnaire par rapport au mouvement révolutionnaire, c'est ça en fait qui s'est passé?
Oui, il faut dire que l'Égypte est un pays déjà extrêmement conservateur et traditionnel et qui a vraiment senti son assise basculer au moment de la révolution parce que beaucoup de choses ont changé. D'abord, il faut voir qu'au moment où la révolution a éclaté en Égypte, l'Égypte était un pays qui était sur une certaine dynamique économique et cette dynamique économique-là qui était déjà loin à l'époque de bénéficier à l'ensemble de la population puisqu'on estimait que même pas 10% des Égyptiens sentaient les fruits de cette croissance qui à l'époque était de 6-7%. Aujourd'hui, tout s'est écroulé forcément avec l'instabilité qui a suivi la révolution. L'Égypte, elle a été basculée, elle a été profondément bouleversée en fait dans ses fondements. L'armée, qui est la colonne vertébrale de l'Égypte, a elle aussi été bouleversée. Les rapports générationnels, parce que la révolte de 2011, c'est aussi une révolution de la jeunesse, hein, vous l'avez bien dit dans cette émission. Elle a eu très peur, l'Égypte. Elle a eu très peur parce que à cette révolution a succédé l'élection de Mohamed Morsi, qui a été le premier président civil de l'Égypte et qui était un président frère musulman.
Vous évoquiez l'armée, donc institution toujours aussi forte, mais pourquoi le peuple a-t-il tant confiance en son armée ?
Alors,
est-ce qu'il a confiance? Est-ce qu'en fait, il a le choix?
Alors, l'armée, il faut avoir conscience de ce qu'est l'armée en Égypte. Et ça, il faudrait remonter aux années 50, 1952. C'est le coup d'État des officiers libres. L'Égypte, d'une monarchie qui est en ce moment-là à la solde des étrangers, des Britanniques, auparavant des Français. Enfin, 1952, c'est la révolte des officiers libres. Naguib puis Nasser incarnent l'Égypte libre, pour la première fois depuis les pharaons, et c'est très important, ce sont des Égyptiens, 100% Égyptiens, nés sur le bord du Nil, qui dirigent le pays. Et donc cette armée, elle est considérée comme la garante des valeurs de l'Égypte moderne. C'est elle aussi qui incarne toutes les guerres avec Israël, et ça c'est fondamental dans la psyché de l'Égypte contemporaine. Et puis l'armée égyptienne, si elle est si forte, c'est que justement dans ces années-là, dans ces années 50, il y a tout un tas de nationalisations qui vont permettre à l'armée égyptienne en fait de prendre la main sur une énorme partie de l'économie, des industries, de l'immobilier, les sources d'eau, les côtes, etc. Et donc, on estime aujourd'hui que l'armée égyptienne, elle tient à peu près au moins 25% de l'économie du pays. Cette armée, elle ne s'est jamais levée contre le peuple. Elle est donc considérée comme celle qui est vraiment la gardienne du pays, contrairement à la police qui, elle, est toujours apparue comme le bras armé du régime, au service du régime. La police égyptienne était connue pour sa corruption, pour son pour être un État dans l'État, quand on rentrait dans un commissariat, disait-on, la formule de bienvenue, c'était de se prendre une gifle. Et si on ne savait pas pourquoi, ça allait vite venir. Voilà, c'était comme ça que les Égyptiens considéraient leur police, donc comme une police corrompue, alors que l'armée, elle, vivait à l'écart. D'ailleurs, les militaires égyptiens ont leur club privé, leur supermarché privé. Tout le monde a plus ou moins de près de loin quelqu'un de sa famille qui est dans l'armée. Et puis surtout, tout le monde passe par les rangs de l'armée. Oui. Et en cela, elle est vraiment le creuset de la nation.
Alors, on va apprendre un mot arabe. Nocta.
Nocta.
C'est une blague caustique et mordante, typiquement égyptienne, alors qui a circulé dans le pays. C'est vous qui l'a rapporté dans votre livre, Claude Guibal. Au premier jour de sa présidence, le chauffeur d'Hosni Moubarak, hérité de ses prédécesseurs d'ailleurs, lui demande quel chemin emprunter pour se rendre au palais présidentiel. Que faisait Nasser, s'enquiert alors Moubarak. Nasser, il prenait toujours à gauche, répond le chauffeur. Ah bon? Et que faisait Sadat? Eh bien, il prenait toujours à droite. Moubarak réfléchit alors un moment et répond « Mets le clignotant un coup à gauche, un coup à droite, égare-toi ». Métaphore du régime de Moubarak, 30 ans d'immobilisme, c'est ça ?
30 ans d'immobilisme, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 30 ans d'immobilisme qui ont aussi été 30 ans de paix, ce qui a permis à l'Égypte, en fait, de se développer, de se sortir aussi des conflits israélo-palestiniens. Il faut voir que on célèbre cette année le 40e anniversaire des accords de Camp David, qui marque donc les accords de paix entre l'Égypte et Israël. Et c'est vrai que ces accords qui ont mis l'Égypte au banc du monde arabe, lui ont aussi permis à un moment de se reprendre, de pouvoir rebâtir une économie très sinistrée par les guerres. Mais voilà, l'Égypte de Moubarak, c'est une Égypte qui reste figée, qui oublie qu'il y a une jeunesse qui grandit, une part énorme de la population à moins de 25 ans, et c'est une Égypte qui vit complètement figée économiquement. Rien de secret, c'est une économie de rente, hein, l'Égypte, il faut voir quelles sont ses sources de devises, c'est le tourisme, c'est le pétrole, ce sont les revenus des Égyptiens qui vivent à l'étranger, c'est le canal de Suez, et donc l'Égypte n'est pas un pays qui crée. Il y a des diplômés qui sont au chômage, et il y a toute cette génération de gens qui arrivent à l'âge adulte en étant moins confiants, et à juste titre, dans l'avenir que leurs parents, alors que toute la journée, la presse gouvernementale leur serine que tout va bien, qu'il y a de l'argent, que le chômage baisse, et à ce moment-là, commence à arriver sur les écrans égyptiens Al Jazeera. On commence à avoir un petit peu Internet. Et là, les Égyptiens, les jeunes Égyptiens, se rendent compte qu'ils vivent dans un monde de dupes, qu'on leur ment et que l'avenir, en fait, est complètement bouché.
Alors, nous allons écouter une archive ensemble, un extrait de l'émission Réplique, diffusée sur France Culture, où le journaliste Renaud Girard s'exprime sur un événement important sur lequel on est passé assez vite dans le récit parce qu'il était très court, la prise et l'exercice du pouvoir par les frères musulmans.
Les frères musulmans ne sont pas au départ de la révolution égyptienne. Ce sont plutôt la jeunesse, les blogueurs, etc. Ensuite, ils vont se rallier parce que les frères musulmans, depuis une dizaine d'années, collaboraient avec le régime de Moubarak. Deuxièmement, c'est vrai qu'ils gagnent les élections parce que c'est la seule partie organisée. C'est un parti très fort, les frères musulmans. C'était fondé en 1928, organisé sur le modèle mussolinien, fasciste à l'époque, par Hassan el-Banna. Donc, grâce à leur organisation, ils gagnent. Et puis, Morsi va gouverner. Et il y a deux choses qui se passent. C'est que, premièrement, il y a une grande incompétence dans les ministères. Ça, c'est tout à fait certain. Et aussi une idéologisation, c'est-à-dire qu'en fait, on l'avait nommé là parce qu'on pensait qu'il pourrait faire ça, parce que les frères musulmans avaient une réputation, assez d'ailleurs justifiée, d'honnêteté, c'est-à-dire de ne pas être corrompus financièrement, mais il y a eu cette idéologie qu'ils ont essayé d'appliquer, et donc ils ont commencé à expliquer au peuple égyptien que la femme n'était pas vraiment l'égale de l'homme, mais le complément de l'homme, et ça, tout ça, évidemment, n'est pas passé.
Mais quel genre de régime était-ce, d'un point de vue des libertés publiques et individuelles?
Le régime de Mohamed Morsi, au niveau des libertés publiques, surtout, il faut se souvenir que Mohamed Morsi, quand même, s'arroge les pleins pouvoirs en 2012, et c'est ce qui va précipiter sa chute. Mais effectivement, une fois arrivés au pouvoir, les frères musulmans, qui pendant la Révolution avaient réussi à montrer un visage plus ouvert que celui qu'on leur connaissait, notamment grâce à une frange des frères musulmans qui apparaît à ce moment-là et qui va vite être réprimée par la suite, qui sont les jeunes frères musulmans qui sont eux aussi en révolte contre leurs aînés et challenge un petit peu les structures traditionnelles de la confrérie. Et Morsi, quand il arrive au pouvoir, les choses sont très vite moins roses qu'on l'imagine, puisque c'est vraiment une dérive autistique. Il ne fait plus attention du tout à l'opposition avec laquelle il a pourtant très très bien su composer jusqu'alors. Et lorsqu'il s'arroge les pleins pouvoirs, c'est à ce moment-là qu'il se met complètement à dos l'armée, parce que les frères musulmans, quand même, s'ils ont réussi à se sortir malheureux de cette révolution, c'est justement précisément parce qu'ils ont passé des accords avec l'armée. C'est ce qui leur vaut la haine farouche du reste de l'opposition, qui considère que les frères musulmans ont trahi la cause révolutionnaire.
Alors, on en arrive à la question, sur la dernière question d'ailleurs, elle est importante, on se souvient tous, on a tous des souvenirs précis de cette année 2011, donc ça commence par la Tunisie, puis on s'est dit, bah, maintenant l'Égypte, ça va probablement être comme la Tunisie, après on a eu la Libye, on se disait, on avait plus de doutes sur ce point, puis il y a eu la Syrie qui s'est terminée, et ça continue en drame absolu, pas à cause de la révolution, mais à cause de la répression hein, contre les forces démocratiques. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour que on ne connaisse pas un scénario à la tunisienne?
Un scénario à la tunisienne, ça
serait
post-révolutionnaire. L'histoire de la Tunisie et l'histoire de l'Égypte ne sont pas comparables, parce que c'est vrai qu'il y a la Tunisie est un régime qui est plus ouvert aux questions démocratiques, qui est déjà il y a beaucoup moins de monde aussi. On parle en Égypte, il y a 80 millions d'habitants au moment de la révolution, 100 millions aujourd'hui. La Tunisie, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Et puis surtout, les islamistes tunisiens ont vécu longtemps à l'étranger, ont vécu en exil, ont l'expérience de ce qu'est la démocratie. On a l'expérience de ce qu'est la politique.
Le terrain était plus propice.
Le terrain est beaucoup plus propice. La population tunisienne est bien plus éduquée que la population égyptienne. En Égypte, la chose était très différente. Les frères musulmans bénéficiaient et bénéficient toujours d'un soutien dans la population extrêmement conservatrice, illettrée, analphabète, qui voyait dans les frères musulmans comme, ça a été très bien dit par Renaud Girard, comme effectivement des gens honnêtes, en tout cas moins corrompus que le régime. On disait que une Guinée, une livre égyptienne qui allait dans la poche des frères musulmans, on voyait où elle allait.
Toute dernière question, pardon de bousculer hein, Claude Guibal, mais l'heure c'est l'heure. Une toute dernière question rapidement à l'aide d'actualité. Est-ce que ce qui se passe en ce moment en Algérie ressemble plus ou moins à ce qui s'est passé dans les autres pays du Maghreb?
Alors moi je ne peux pas m'empêcher de faire des comparaisons, effectivement, même si là encore l'Algérie n'est pas l'Égypte, et surtout ce qui se passe en Algérie nous est quand même très très opaque, parce qu'on a quand même vraiment un manque de connaissances intimes du système algérien et du poids de son armée. Mais effectivement, les choses sont les mêmes dans le sens où l'armée est toute puissance, l'armée tient le pays, et surtout, il semble que l'armée algérienne soit prête, comme l'a fait l'armée égyptienne, à sacrifier la tête, à sacrifier Moubarak pour l'Égypte, sacrifier Bouteflika pour l'Algérie, de façon à préserver le régime, le système, le fameux Nizam qu'on a construit en Égypte, en Tunisie ou en Algérie aujourd'hui.
Merci infiniment, Claude Guibal, pour tous vos éclairages et votre connaissance de la situation politique de ce pays. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le printemps arabe en Égypte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui.